Louez le Seigneur. Cet ordinateur. Aujourd'hui, on va reparler de la consécration. C'est important d'avoir une vision claire. On peut bien sûr pas tout comprendre, mais on doit voir quand même. C'est important dans la consécration des sacrificateurs. On ne peut pas juste dire « Seigneur, je me donne à toi ». Et cette consécration, on l'a souvent faite comme ça. C'est aussi bien. « Seigneur, je me consacre à toi ». Je me consacre à toi. Pour ton être personnel, tu peux le dire en tant que croyant. « Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Aide-moi. » Ça veut dire « J'aimerais me donner complètement à toi. » C'est une bonne attitude. C'est une bonne attitude. Mais pour le sacerdoce, c'est quelque chose d'autre. Dieu n'attend pas de chacun, de tout le peuple, qu'il se consacre de la même manière. Ce n'est pas comme ça. Mais, louez le Seigneur, parce que ce service est un service particulier pour le Seigneur, Dieu aimerait que tous soient comme ça. Mais, ma foi, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire pourquoi c'est comme ça, mais c'est ainsi. Et le Seigneur est très miséricordieux pour nous montrer ce chemin du sacerdoce. Maintenant, lisons Exode 28. Le Seigneur a dit à Moïse, tu dois faire approcher Aaron. Alors c'est Exode 28, verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Tous peuvent servir Dieu de différentes manières et faire quelque chose pour Dieu, bien sûr. Mais le service des sacrificateurs est quelque chose de spécial que le Seigneur veut. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont les fils d'Aaron. Et là, on doit retourner à Hébreux 2. Le Seigneur dit, « Moi et les enfants que tu m'as donnés. » Et souvenez-vous, dans Hébreux, le Seigneur là est le souverain sacrificateur. Nous pensons toujours au Seigneur, seulement en tant que rédempteur, que sauveur. C'est aussi bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de son Fils Jésus. Il veut qu'il soit ce souverain sacrificateur pour nous. Parce qu'il veut faire de nous des sacrificateurs. Si Dieu ne veut pas le sacerdoce, alors il n'a pas besoin de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur est nécessaire pour le sacerdoce. Ainsi, c'est Aaron et ses fils. Pas Aaron et tout le peuple. Non, c'est Aaron et ses fils. C'est dans Hébreux 2, vous pouvez lire vous-même. « Moi et les fils que tu m'as donnés ». Ainsi, louez le Seigneur. Il est écrit là. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. D'autres versions disent pour la beauté et pour la gloire. pour la beauté et pour la gloire. Et ici, il est dit, dans second, il est dit pour la dignité, pour la sainteté et pour la parure, c'est la beauté. Louez le Seigneur. Le sacerdoce est devant aux yeux du Seigneur ce qu'il y a de plus beau. La sainteté, la beauté. Ne dit pas, le psaume 110 ne dit-il pas que ceux qui se donnent volontairement dans l'armée sont revêtus de beauté. Il parle de la beauté de la sainteté. En anglais, c'est la beauté de la sainteté. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que cette armée merveilleuse du Seigneur est une expression de sa dignité? C'est la beauté de la sainteté. Pour Dieu, cette sainteté est une expression de beauté. C'est pourquoi, dans la maison du Seigneur, j'aimerais contempler sa beauté. J'aimerais voir la beauté et la sainteté. Est vraiment la sainteté est vraiment quelque chose de très beau pour le Seigneur. La sainteté, lorsque nous revêtons une robe ou un vêtement pour être beau, il y a tant de couleurs, de petites fleurs, toutes sortes de choses pour rendre le vêtement beau, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui était beau aux yeux du Seigneur? Ce vêtement de fin lin blanc qui est brillant, qui est beau, éclatant. Ça, c'est la beauté. Mais pour les hommes, ce n'est pas une beauté. Alors, il faut rajouter un tas de choses. Mais le Seigneur aimerait avoir la sainteté. La sainteté, c'est la beauté. Louez le Seigneur. C'est important que nous voyions cela. Et être aussi beau. Dieu doit être exprimé. C'est la gloire. Dans l'Église, nous ne voulons rien exprimer d'autre que ce service sacerdotal. Non. L'Église est en fait l'expression de la piété. Le mystère de la piété, Dieu révélé en chair. On en a parlé au début. Si quelqu'un vient dans l'Église, qu'est-ce qu'il veut le voir? Il doit voir l'expression de Dieu parmi nous. Ils ne veulent pas voir beaucoup de fonctions différentes. Vous avez ça, vous avez ceci, un cœur, etc. Ça, c'est pas ce que Dieu veut dans sa maison. Mais lorsque les gens viennent dans la maison du Seigneur, si nous disons que c'est la maison du Dieu vivant, alors il faut qu'ils voient Dieu. Pas un bon message. Pas beaucoup, beaucoup de témoignages. Pas de la musique. Pas un cœur. Ils ne veulent pas écouter un cœur. Lorsque les gens viennent juste parce qu'on a un bon cœur, pour chanter, alors ce n'est pas la maison de Dieu. Mais Dieu est révélé en chair. Ils veulent voir Dieu ici. Bien sûr, je ne veux pas dire que c'est absolu. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Est-ce que tu es parfait? Êtes-vous parfait? Ça veut dire, c'est pas d'une manière absolue. Mais autant que possible, on veut exprimer Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Non, aucun de nous n'est parfait, mais c'est notre désir. Paul dit, qu'est-ce que l'Église? C'est le pilier de la vérité. Dieu révélé en chair. Bien sûr, Paul ne dit pas que c'est absolu, que c'est parfait. Non. Ça ne peut être que lorsque le Seigneur reviendra et qu'on sera sur la montagne de Sion, là, ce sera parfait. Son nom est pleinement écrit sur notre front, le nom du Père, le nom du Seigneur. Alors, l'expression est très claire. Dieu est révélé. Mais aujourd'hui, louer le Seigneur, c'est autant que possible notre désir. Plus nous croissons, plus nous exprimerons Dieu. Ça veut dire que la fonction principale du sacerdoce, c'est d'exprimer Dieu, sa sainteté et sa gloire. Dieu n'est pas si compliqué. Il veut seulement deux choses. Adam. Oui. La sainteté et la gloire. Et maintenant, on voit que les vêtements sont importants. Alors, Moïse devait les revêtir pour marquer leur dignité et la parure, la beauté et la parure de Dieu. Tu parleras avec tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Tu vois, nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation, d'intelligence. Et même si nous avons la sagesse de Dieu, Jacques dit, si on a besoin de cette sagesse, demande-la. Et Dieu va nous la donner tout de suite. Dieu ne va pas dire, non, tu n'es pas qualifié. Non. Et justement, parce que je ne suis pas qualifié, il faut que je la demande pour recevoir cette sagesse. Mais si nous pensons que nous savons tout, alors nous n'avons pas besoin de demander. Mais nous avons aussi besoin de son conseil. Nous devons toujours revenir à lui. Ainsi, tu parleras à tous ceux qui ont un bon cœur. Il est dit dans une autre version. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Et cela veut dire, chers frères et sœurs, que ce vêtement dans la Bible est toujours un signe de notre marche. C'est pourquoi dans Apocalypse, il est dit qu'ils marcheront avec moi. Comment? En habit blanc. Dans notre vie quotidienne, en tant que sacrificateurs, nous devons expérimenter le Seigneur en toutes choses, en tout ce que nous faisons. Même si l'expérience est petite, c'est égal. Mais nous devons l'expérimenter. Et avec cette expérience, nous avons aussi besoin de la sagesse en haut. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta sagesse, pas la mienne. J'ai besoin de la sagesse d'en haut. Chacun de nous en a besoin. Pour les choses terrestres, nous sommes peut-être très capables, très utiles, très habiles. Mais pour les choses célestes, nous avons besoin de la sagesse céleste, pas de la sagesse terrestre. Afin qu'ils soient consacrés, qu'ils exercent mon sacerdoce. Nous pensons peut-être que pour certains, ils revêtent juste Christ, c'est si facile. Oui, alors dans l'enseignement, c'est facile. Même déjà dans le baptême, sitôt, on doit apprendre dès le début à revêtir Christ. C'est ce que Galates nous dit, chapitre 3. Est-ce que tu peux lire cela? Galates 3. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dès le début. Mitching, tu es juste baptisé. Tu dois réaliser que tu as revêtu Christ. Mais je n'ai jamais entendu cela. Nous avons baptisé beaucoup de gens. Et Paul dit, nous sommes baptisés en lui. Et nous avons revêtu Christ. C'est si merveilleux. Ce vêtement, c'est Christ. Et nous remarquons, et je le rends simple et rapide, les vêtements pour Aaron sont très différents que les vêtements de ses fils. Vous avez remarqué cela? Il n'y a qu'Aaron, en tant que souverain sacrificateur, qui est qualifié pour revêtir ce vêtement très beau. Et les sacrificateurs, c'est différent. Ils ont seulement des vêtements de lin blanc. Je n'aimerais pas dire c'est compliqué, mais si glorieux. Est-ce que nous sommes aussi glorieux que Christ? Non, certainement pas. Qui oserait dire que nous sommes aussi glorieux que Christ? Non, non. Mais nous sommes en train d'être transformés. Nous avons besoin de ce processus de transformation en la même image. Mais ça, ça nécessite toute ta vie. C'est pourquoi nous devons vraiment racheter le temps, utiliser le temps, parce que la transformation prend du temps. Seigneur, je dois être transformé en ton image, de gloire en gloire. Ça veut dire de plus en plus. Ce n'est pas d'un jour à l'autre. C'est impossible. Sinon, on serait tous comme Christ, si glorieux et merveilleux. Je n'ai encore jamais vu un tel homme. Ou bien toi? Non. C'est bien. Adam, il dit aussi qu'il n'a pas vu un tel homme. C'est vraiment comme ça. On est transformé de gloire en gloire. Louez le Seigneur. C'est un processus par lequel nous devons passer. Ainsi, le vêtement d'Aaron est si glorieux, si merveilleux. Et les matériaux, la base, c'est du fin lin blanc. Il est le juste. En lui, il n'y a pas de péché. Il est parfait. Pas nous. Et après, on voit qu'il y a des fils d'or. Si fins. Puis, il y a des fils bleus qui sont brodés là, puis du pourpre, et encore du cramoisi, qui sont œuvrés dans cet éphod. De l'or, combien d'or avons-nous? Je suis encore en train d'acheter de l'or. Toi aussi. Très bien. Alors, ensemble, on peut tous acheter. Si tu as un chemin et que tu sais où acheter de l'or, alors dis-moi, je viens avec toi et on peut acheter cet or. Le Seigneur dit à l'Église, à Laodicée, viens à moi et achète de l'or. Achète de moi de l'or céleste. Combien en as-tu déjà acheté, Yona? Un petit peu. Peut-être tous les jours un petit peu, ou bien un petit peu de manière générale. Tous les jours un petit peu plus. Parce qu'on ne peut pas payer. C'est trop cher. Tu ne peux pas tous les jours acheter un kilo d'or céleste. C'est impossible. Ça veut dire, c'est de plus en plus, petit à petit. C'est pourquoi que ces fils, c'est des fils d'or. Ce n'est pas une grosse ficelle. Ce n'est pas une grosse corde. Non, c'est si fin. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et tu dois être habile. Tu dois avoir la sagesse d'en haut pour savoir comment utiliser ce fil d'or pour le mettre dans cet habit. Là, nous voulons de plus en plus gagner la nature de Dieu de jour en jour. Pierre dit aussi qu'on est à part à sa nature divine, mais pas d'un coup, et on n'est pas tout de suite parfait. C'est impossible. Puis, il y a ce fil bleu. Bleu. Où trouves-tu sur cette terre la couleur bleue sur la terre? Là-haut. C'est céleste. C'est la nature céleste. C'est pourquoi nous sommes venus à la Jérusalem terrestre? Non. Le site web s'appelle la Jérusalem céleste. N'est-ce pas merveilleux? Et j'espère que c'est vraiment ainsi. De plus en plus. De plus en plus. On doit être céleste. Le premier Adam était terrestre. Tu sais, nous nous appelons tous Adam, pas seulement toi. Bien que je m'appelle John, je m'appelle aussi Adam. Mais le deuxième homme est céleste, il est venu des cieux. Cette couleur bleue, nous ne pouvons la recevoir que de lui. Et Jean a dit, il est venu du sein du Père. Et tout ce qu'il nous a dit est céleste, ce n'est pas terrestre. Et le Seigneur a dit, si je vous parle de choses terrestres et que vous ne pouvez même pas les comprendre, alors comment est-ce que vous comprendriez si je vous parle des choses célestes? Vous êtes terrestre. Mais moi, je viens d'en haut. Mais si l'Église est terrestre et que nous faisons que ce qui est terrestre, alors ce n'est pas l'Église du Seigneur, certainement pas. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Non, nous apprenons encore. Et le pourpre, comme cette couleur pourpre, on appelle cette couleur pourpre, n'est-ce pas? Ou ça, c'est violet? C'est violet. C'est une couleur de royale. Le Seigneur est le roi. Comme Zacharie 9:9 dit, il s'est humilié et il a monté un petit ânon. mais il a amené son salut dans son premier, la première fois qu'il est venu, dans sa première venue. Il s'est humilié, bien qu'il était le roi. Louez le Seigneur pour cette couleur. Et ça, c'est un miracle que quelqu'un qui était roi et il est venu pour nous servir comme esclave, bien qu'il était roi. C'est comme une énigme. Il n'y a que le Seigneur qui puisse faire cela. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre dans l'Église. Le fait de servir n'est pas une position. Mais si c'en est une, alors c'est la position d'un esclave. Le Seigneur a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Ne sers pas dans l'Église comme quelqu'un qui est plus élevé. Non, ne fais pas cela. Si nous faisons cela, alors nous ne pouvons pas bâtir sa maison. Et nous ne servons pas le Seigneur à ce moment-là. Apprenez cela. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse, à l'Église, à Éphèse déjà, qu'il déteste, il hait les œuvres des Nicolaïtes. Parce qu'il domine sur les saints. Regarde, avec l'Église catholique, c'est le pape qui est assis sur le trône et chacun doit embrasser sa main. J'espère que nous ne faisons pas cela dans l'Église. Mais nous le faisons d'une autre manière. C'est pas m'embrasser la main, mais tu fais ce que je te dis. Tu dois être obéissant. Sinon, je te montre la porte. On en a même deux ici. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux t'en aller. Ça, c'est l'œuvre des Nicolaïtes. Et le Seigneur a dit exprès, je les hais. Le Seigneur a dit deux choses. Premièrement, les Nicolaïtes, les œuvres des Nicolaïtes. Et deuxièmement, les œuvres de Balaam. Vous connaissez tous l'histoire de Balaam, le prophète qui a prophétisé parce qu'il était payé par Balak. Il a été payé. Que disent les Allemands? Celui dont tu manges le pain, tu dois danser devant lui. D'après leur chant, si tu es payé, tu n'as pas le choix. Tu dois alors faire ce qu'ils te disent. Ainsi, nous ne faisons pas cela dans l'Église. C'est pas non plus ce que fait le Seigneur. Qui a payé le Seigneur Jésus alors qu'il servait? Non. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper. Nous ne servons pas pour avoir un gain, pas non plus pour une position dans l'Église. Mais c'est très difficile pour les hommes. Aujourd'hui, aimerais-tu travailler dans une entreprise et ne pas être payé? Non, personne ne fait cela. Mais malheureusement, ils font ça dans la religion aussi. Ainsi, louez le Seigneur. Le Seigneur est le roi. Et, toutefois, il est venu pour servir comme esclave. Puis, il est venu pour le salut. Cette couleur écarlate. Il est venu pour nous sauver. J'ai mentionné Zacharie 9:9. Votre roi vient humble et il a amené le salut est la rédemption. Nous sommes celui qui veut être sauvé doit venir à lui. Puis, il y a ce vêtement blanc de fin lin. Toutes ces couleurs déjà nous montrent Christ. On peut voir Christ dans toutes ses couleurs. C'est pourquoi il y a quatre êtres vivants. Le Seigneur a le visage d'un lion. Il est le roi. Du côté droit, du côté gauche, il est un veau qui sert. Il est tellement équilibré. Et nous, Seigneur Jésus. Puis devant, on voit le visage d'un homme. C'est l'image d'un homme. Et derrière, il y a le visage d'un aigle. Ça montre qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais il vient en tant qu'homme. Tu peux t'imaginer qu'en tant que Dieu, s'il se montrait en tant que Dieu, on mourrait tous. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre parce que nous ne sommes pas saints. C'est pourquoi le Seigneur est devenu un homme. Et alors, il exprime Dieu en tant qu'homme. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et d'un côté, il est un lion, le roi. Mais de l'autre côté, il est un veau. Un animal qui sert. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est pourquoi on a l'évangile de Matthieu, de Marc, qui est un serviteur, puis de Luc, il est un vrai homme, et dans Jean, il est dit qu'il est Dieu. C'est pourquoi tu as quatre évangiles. Nous devons connaître Christ dans tous ses aspects. C'est si merveilleux. C'est par là que c'est pour ça que Aaron a d'autres vêtements que ses fils. Et sur cet éphod, je dis juste rapidement, il y a deux pierres d'onyx sur les épaules. Les épaules, c'est pour porter. Et sur ces deux pierres, tous les noms des tribus sont gravés. Elles sont gravées. Si c'est seulement écrit, tu pourrais l'effacer. Mais si c'est gravé, ça reste. Louez le Seigneur. Ça veut dire qu'en tant que souverain sacrificateur, le Seigneur nous porte tous. Et ces noms sont selon l'ordre de naissance. Pas selon celui que Dieu préfère. « Oh, j'aime Joseph. Alors d'abord Judas, après Joseph. » Non. Puis Benjamin, et puis après Ruben. Ruben viendra en dernier. On a des préférences dans l'Église. Ça, c'est pas bon. Il faut pas de préférence dans l'Église. Nous portons tous les frères et sœurs de la même manière. Si celui qui veut vraiment servir, tu dois apprendre par Jésus-Christ à vraiment porter tous les saints. Si nous ne pouvons pas porter les saints, et qu'on a des préférences, porter, ça veut dire, c'est égal qui tu es, comment tu es, fort ou de faible. Tous les frères et sœurs sont pareils. Non, ils ne sont pas tous pareils. Mais en tant que sacrificateur, il faut être comme Christ qui porte de la même manière tous les saints sur ses épaules. On doit voir cela. Quel souverain sacrificateur! Quel souverain sacrificateur qui porte les saints. On doit apprendre cela. Ce sont des pierres d'onyx. Les saints sont précieux. Oui. Louez le Seigneur. Alléluia. Pour le Seigneur, il n'y a pas de préférence. Nous sommes tous pareils. Tous pareils. Et sur sa poitrine, il y a ce pectoral. Et chaque tribu est une pierre maintenant, différente, une pierre précieuse, différente. Sur les épaules, nous sommes tous pareils. Mais pour l'édification de l'Église, tu ne peux pas t'attendre à ce que tous les frères et sœurs se ressemblent. C'est pourquoi il y a la beauté des différentes pierres précieuses sur le pectoral. Ça nous rappelle la ville de Jérusalem. C'est pour l'édification de l'Église. Chaque membre est différent. N'essaye pas de les rendre tous pareils dans l'Église. T'attends-tu à ce que ta femme soit exactement comme toi? Est-ce que c'est possible? Essaye. Peut-être que tu y arrives. J'ai déjà essayé, mais ça marche pas. Et puis, dans l'Église, on aimerait que tous les saints soient pareils. Pourquoi est-ce qu'on veut faire cela? Personne n'est pareil. Personne. C'est pourquoi Paul dit, nous acceptons tous comme Christ vous a accueillis. Comment est-ce que Christ t'a accueilli? Comme tu es. Et avec le temps, on est transformé. Ainsi, nous ne sommes pas comme le Seigneur, mais nous devons apprendre de lui. Nous devons apprendre de lui. C'est si important. C'est si merveilleux et si important. Et c'est pour ça qu'on voit que le Seigneur porte la Nouvelle Jérusalem sur son cœur. Ça, c'est le but. Ces pierres-là sont différentes que celles qui sont sur les épaules. Le Seigneur bâtit la Nouvelle Jérusalem. C'est merveilleux. C'est sur sa poitrine, sur cette partie-là. Nous devons avoir un but. Nous voulons bâtir la Nouvelle Jérusalem. Souvenez-vous de ces différentes pierres précieuses. Ça signifie qu'on doit être transformé. Mais même toutes les pierres, même transformées, ne sont pas pareilles. Ça serait pas joli si tout était de la même couleur, ou bien? Dans ma famille, je viens d'une famille où on a les mêmes parents et nous sommes 13 enfants dans la famille. On pourrait faire une équipe de foot. Bien que nous venons tous des mêmes parents, nous sommes très différents. Chacun est différent. Oui. Et mes parents n'ont jamais, ils se sont jamais attendus à ce qu'on soit tous pareils. C'est impossible. Et c'est pas non plus beau quand tous sont pareils. C'est pourquoi nous devons apprendre aussi dans l'Église à pas exiger, à pas dire vous devez faire comme cela, nous devons tous faire comme cela, et toi, tu dois venir à chaque réunion. Pourquoi est-ce qu'on doit dire cela? Comme si nous n'avions pas autre chose à faire que les réunions. Non. Et un cœur élargi. Paul dit, Votre cœur est étroit. Mais mon cœur n'est pas étroit. Mon cœur est large. Si nous vivons le Seigneur Jésus-Christ, alors notre cœur est élargi. Le Seigneur ne force personne. Celui qui a soif, qu'il vienne. Il n'a pas dit, vous devez venir et boire. Non. Celui qui a soif est celui qui veut qu'il vienne. Si quelqu'un ne veut pas, bien. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne viens pas, mais peut-être demain tu viendras. On ne doit forcer personne, non. Nous ne faisons pas cela à Jérusalem, à Sion. Louez le Seigneur. Nous ne faisons pas cela. Ainsi, on apprend du Seigneur. Et il a aussi un couvre-chef. Et ça, c'est une couronne. C'est aussi dit, c'est aussi beau. Il n'y a pas beaucoup de pierres, mais c'est aussi fait de fin lin blond et il y a dessus une lame en or. C'est une lame en or en français. Oui, c'est une lame en or. Et il est écrit dessus, quoi? Sainteté à l'Éternel. Pourquoi juste sur le front? Parce que là, dans notre vie journalière, il y a un grand problème là. Il y a toutes sortes de pensées. Notre pensée, nos pensées doivent aussi être renouvelées. Romains 12 nous dit pardon, que la transformation vient du renouvellement de nos pensées. Combien pries-tu, Seigneur, renouvelle mes pensées? Oui. Et si nous nous dépouillons du vieil homme dans Éphésiens 4 et que nous revêtons le nouvel homme entre les versets 22 et 24, il y a le verset 23 qui dit « Soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors tu revêts le nouvel homme. Si nos pensées ne sont pas renouvelées et qu'il y a beaucoup de pensées là-dedans, alors tu ne peux pas revêtir le nouvel homme. Tu ne peux pas non plus te dévêtir du vieil homme. Si tu enlèves le vieil homme, tu vas de nouveau le remettre. C'est pourquoi. Ce renouvellement de l'intelligence, c'est marqué « Sainteté à l'Éternel ». À Philadelphie, le Seigneur dit « J'écrirai le nom de mon Dieu sur son front. » Et mon nom nouveau, le Seigneur a un nom nouveau. Plus tu l'expérimentes, plus c'est nouveau. Tu as découvert quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a toujours un nom nouveau pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Puis, la Nouvelle Jérusalem, c'est écrit, le nom de la ville de mon Dieu. C'est pourquoi on a beaucoup de place ici sur le front. Spécialement Toby. Beaucoup de place. Alors tu dois demander. Qu'est-ce qu'on peut lire là? Le Seigneur n'a pas dit qu'il écrirait ça sur ton vêtement. Ça, ce serait facile, mais il faut qu'on lise ça sur ton front. Jésus revient bientôt. C'est écrit en grand sur son pull. Et nous devons voir, le Seigneur est notre souverain sacrificateur. Et intérieurement, il y a une robe qui est toute bleue. céleste, car le Seigneur est l'homme qui vient d'en haut. C'est le deuxième homme, le dernier Adam. Le dernier Adam, le premier vient de la terre, il vient d'en bas. Mais le Seigneur est l'homme qui est venu d'en haut. Il est vraiment céleste, entièrement. Vous êtes d'en bas, il a dit. Je suis d'en haut. Louez le Seigneur. Mais nous sommes tous d'en bas, de la terre. Mais le Seigneur est le deuxième homme. Il vient d'en haut. D'en haut. Céleste. Il est de couleur bleue. Et ça, c'est intérieur, là. Puis, il y a un vêtement blanc encore. Et sur cette robe bleue, il y a une rangée de grenades en or et des clochettes tout autour du vêtement. Tout autour. Ça veut dire, partout où va le souverain sacrificateur, d'abord Dieu l'entend. Tu sais, Dieu veut savoir où tu vas et d'où tu viens. Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Tu ne peux pas dire, oh, il ne le sait pas. Alors, tu vas tout lentement et tu espères que personne ne le voit. Ça n'existe pas. Parce que ça sonne de partout, ces clochettes. Ne fais rien en secret. Non. Ça va pas. Tu penses que Dieu n'entend pas et qu'il ne voit rien? Non, il voit tout. Ce que le Seigneur a fait sur cette terre, Dieu a tout vu. Et il peut témoigner. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, tout mon plaisir. Parce que Dieu n'a dit cela de aucun homme. Le Seigneur n'a jamais rien fait qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Mais nous tous, nous faisons tant de choses. Et après, nous pensons que personne ne nous voit. Nous pensons que personne n'entend et personne ne voit. Nous ne devons pas avoir cette attitude. Dieu voit tout. Et il entend tout. Oui. Et il a tout enregistré. Il a tout enregistré. Une fois, à un certain endroit, on m'a dit il ne faut pas enregistrer, mais on a quand même enregistré. Louez le Seigneur. Ainsi, apprenez, en tant que sacrificateur, nous servons, pas pour que les hommes le voient, mais pour que Dieu voit. Ne pense pas, en premier, que vont dire les hommes, puis après on pense, on fait cela pour que les gens le voient. Non, on fait tout devant Dieu pour que Dieu le voit. Il voit tout. Dieu voit tout. Ne fais rien dans le secret. Ça, ce ne sont que les voleurs qui font ainsi. Par le passé, ce sont les criminels qui portaient un masque. Aujourd'hui, tous portent le masque. Ça, c'est pas bon. Ainsi, louez le Seigneur. Nous faisons tout de manière ouverte. Nous ne cachons rien. Nous avons une bonne conscience. Sans crainte pour que quelqu'un le voie, mais dans la justice et dans la sainteté. C'est ça qu'il est dit dans Luc 1, 72, je crois, à 74. Quand il fait on avait eu une conférence ici à Stuttgart dans une autre salle. Est-ce que tu t'en souviens? On doit apprendre de ce souverain sacrificateur merveilleux. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ était sur cette terre, il a fait tout ouvertement. Il n'avait pas peur des hommes. Les hommes pouvaient tout voir et personne ne pouvait trouver en lui une faute ou un péché. Et il n'avait pas besoin de se cacher. Il n'a rien à cacher. Louez le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? On doit faire cela, apprendre cela. Ce souverain sacrificateur, on doit apprendre de lui. C'est ce que nous montrent ses vêtements. Lorsqu'on sert Dieu, on doit revêtir une robe céleste. Nous servons devant le Seigneur, dans sa présence. Nous n'avons rien à cacher. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Nous faisons tout ouvertement. Louez le Seigneur. Si nous faisons des choses justes, nous n'avons rien à cacher. Et si nous faisons quelque chose de mauvais, alors nous ne voulons pas que les autres entendent. S'il vous plaît, arrêtez d'enregistrer. Pourquoi? As-tu peur que les autres entendent ou pas? Non. Nous faisons tout ouvertement. Parce que tout est fait dans la justice et dans la sainteté. Et Dieu le voit. Alors, on a une bonne conscience. Nous servons avec une bonne conscience et nous n'avons pas peur. N'est-ce pas merveilleux? Alors tu peux bien dormir. Oui. Ou bien est-ce que tu ne peux pas dormir la nuit? Alors on peut bien dormir. Avec une bonne conscience. Ça, c'est le prérequis de ce chapitre 29 au sujet de la consécration. Louez le Seigneur. Ce chapitre est très merveilleux. Nous devons apprendre du Seigneur. Le Seigneur dit, apprenez de moi. Paul a aussi dit, dans Éphésiens 4, nous n'avons pas appris Christ de cette manière, mais nous ne l'avons pas appris ainsi comme nous avons marché. Nous ne devons pas seulement savoir au sujet de l'enseignement de la Bible, ça ne sert à rien. Nous devons voir Christ. Détourne tes regards vers Jésus, celui qui a commencé notre foi et qui l'amène à exécution, à la plénitude. Si tu dis, je suis les Écritures, c'est bien, mais chacun comprend ce qu'il veut. Alors que suivons-nous? C'est pourquoi nous devons avoir une relation vivante avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons cet enseignant merveilleux, cette onction qui habite en nous. C'est très important. Louez le Seigneur. Apprenez cela. Je crois que ça suffit de parler ainsi. Et les fils d'Aaron devaient apprendre. En fonction de ce que faisait leur père. Je crois qu'on apprend tellement. Les fils ne devaient pas avoir une telle robe. Il n'était pas qualifié d'avoir ces vêtements, mais il devait apprendre d'Aaron. Je crois qu'ils ont certainement beaucoup appris. Si je suis un fils d'Aaron, je vais me poser la question, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que tu portes cela? Et qu'est-ce qui est caché dans la poche que tu as sur la poitrine? Pourquoi as-tu cette poitrine? Ta fille veut aussi tout. Elle veut aussi tout savoir. Elle va dans tes poches pour savoir ce qu'il y a. C'était l'Ourim et le Toumim. Ça serait bien si c'était ça dans mes poches. Non, c'est ainsi. Nous devons tous apprendre de Jésus. Et si nous faisons cela, de plus en plus, notre service sera agréable, acceptable devant le Père. Le Père ça lui plaira. Louez le Seigneur. Nous apprenons tous, n'est-ce pas? Il ne faut pas arrêter. Même quand il y a des problèmes, c'est égal. Celui qui apprend, il aura toujours des problèmes. Et celui qui n'apprend rien, ça, c'est le plus grand problème. Et celui qui apprend fait des fautes, ça fait rien. Les fautes ne sont pas un péché. C'est pourquoi on doit accepter tous les frères et sœurs comme Christ nous a accueillis. Les sacrificateurs ont tous beaucoup à apprendre. Surtout que notre temps est très limité. Un service important était d'être devant l'autel des parfums pour offrir des parfums au Père. Le psalmiste dit que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Elle monte vers toi comme de l'encens. Ça, c'est pas une prière générale, mais c'est une prière des sacrificateurs. Celui qui sert doit aussi prier. Si tu ne pries pas, ça ne va pas. Regarde Paul. Au commencement de ses épîtres, a toujours dit « Je prie sans cesse ». Et dit qu'il a prié sans cesse pour les saints. Pas seulement une fois par semaine, mais sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'en beaucoup de choses, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose, mais Dieu, oui. Mais Dieu a besoin de nos prières. C'est pourquoi, dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit, prier de temps en temps. Non. Sans cesse. Est-ce que tu le fais? Pas encore. Depuis maintenant, apprenons à prier, même au travail. Lorsque tu aimes les saints, alors tu les portes dans ton cœur. Ça ne veut pas dire que nous faisons de longues prières, mais tu mentionnes les noms devant le Seigneur, et le Seigneur sait. Seigneur, qu'en est-il de Soltan? Merci pour le frère Soltan, ça suffit. Pour Dieu, c'est assez. Oui. Seigneur, Adam. Ça n'a pas besoin d'être de longues prières. Pour nous, quand ce n'est pas long, ce n'est pas une prière. C'est pourquoi on prie des longues prières et que tous s'endorment. Tu n'as besoin que de mentionner la personne de ton cœur pour Dieu. Et Dieu sait tout. Amen. Mais Dieu a besoin de toi. D'une manière bizarre. Pour lui rappeler. Ça veut aussi dire que vous êtes ceux qui rappelez à Dieu. C'est vous qui rappelez au Seigneur. Alors, c'est pas que le Seigneur a oublié. Non, le Seigneur n'oublie rien ni personne, mais il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de notre collaboration. Seigneur, les saints, ici et là, sur toute la terre, lorsque nous prions, nous rappelons au Seigneur toutes les églises sur toute la terre. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Nous n'avons pas entré dans tous les détails pour lui dire. Non, nous avons besoin de mentionner de notre cœur. Louez le Seigneur. Ce service est important pour les sacrificateurs parce que ce ne sont que les sacrificateurs qui peuvent servir là dans le lieu saint. Les autres sont dehors. Mais les sacrificateurs entrent et tous les jours, ils devaient offrir de l'encens comme une bonne odeur pour le Père, pour Dieu. Ce service, nous devons le faire pas seulement, nous devons faire ça tous les jours, pas seulement pendant l'heure de la prière. Si tu parles d'une heure de prière, alors c'est chaque heure. En tout temps. Sans arrêt. Incessamment. N'est-ce pas merveilleux? Et alors le Seigneur, ça sera de l'encens pour le Père. Tu peux pas prier, Seigneur, Adam, c'est vraiment quelqu'un d'impossible. Ça, c'est pas une bonne prière pour Dieu. C'est pas de la bonne odeur pour Dieu. Dieu dira, oh là là, quelle horreur. Je ne veux pas sentir cela. Non. Mais par amour pour les saints, Seigneur, bénis les saints. Fais quelque chose de bien pour Sion. Pour nos amis à Jérusalem, alors nous prions pour Jérusalem. Nous chantons pas des complaintes à Dieu, mais louez le Seigneur. C'est d'une bonne odeur. C'est ça que nous devons faire en tant que sacrificateurs. Que le Seigneur nous soit miséricordieux. Apprenez cela. Et vous pouvez vous-même lire dans le résumé. Mais ces choses sur lesquelles nous avons de la communion, vous devez les garder dans votre cœur. Car Christ n'est pas seulement notre sauveur, il est aussi notre souverain sacrificateur. On a beaucoup à apprendre de lui. Et il doit aussi nous amener à être parfaits. Louez le Seigneur. Quelle heure est-il? On peut tous partir à la maison.